Détour, une émission de Martine Galland et Madeleine Caboche.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Madeleine.
Bonjour Martine.
Ça s'appelle le Grand Bivouac et ça se passe à Albertville, en Savoie, jusqu'à dimanche. C'est un festival de voyageurs. Certains viennent présenter leurs films, livres, photos et d'autres viennent se remplir de leurs récits ou alors préparer un prochain départ. Depuis hier, Albertville s'est rempli de stands, d'épices, de livres, d'images et puis de visages aussi, ceux que l'on croise dans le public. Ici, on aussi l'air d'avoir bourlingué et assurément d'être curieux du monde. Et c'est pour cela que Détour s'est installé au Grand Bivouac pour une deuxième émission en direct.
Avec de nombreux invités, on les attend, ils sont encore en conférence. Le réalisateur Mathieu Zeytinoğlu et son épouse Anna sur les traces d'un grand-père arménien en Turquie avec le fils du marchand d'olives, c'est le titre de leur film. Corentin de Châtel-Perron qui est déjà arrivé. Bonjour Corentin.
Bonjour.
Nomade des mers, voilier low-tech, il nous racontera cette belle aventure qui commence du côté du Bangladesh tout à l'heure. Et Caroline Rigel, grande voyageuse, écrivain et réalisatrice d'un film extrêmement attendu ici qui s'appelle Les Semeuses de joie. Caroline Rigel a embarqué un jour 11 nonnes d'un village perdu du Zanskar pour un périple de 4 mois en Inde. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Caroline, elles étaient là à l'instant, les nonnes. Vous les avez amenées avec vous.
On a réussi à venir.
Et elles seront sur la scène ce soir.
Oui, ce soir, oui.
Ça se passe bien, ce voyage. Elles sont arrivées le 3 octobre.
Ça se passe merveilleusement bien. Depuis qu'on a réussi à avoir les passeports, en dernière minute, le dernier, on l'a pratiquement pris en vol. On a enfin pu respirer, se réjouir et... Et puis voilà.
Et grâce à leur courte visite, là, juste derrière dans notre studio, elles sont reparties pour se reposer un petit peu à l'hôtel.
Je ne sais pas si elles se reposent, parce que je viens de les croiser en arrivant et il y a toujours beaucoup de monde autour.
Là là.
J'ai appris, je crois, comment on dit bonjour, Djoulou?
Djoulé.
Djoulé, ça c'est en
ladakhi. On dit ça, ça veut dire bonjour, ça veut dire au revoir, ça veut dire merci aussi, c'est pas mal pratique.
On va écouter un extrait du film d'ailleurs que vous nous traduirez puisque on racontera comment, pourquoi, cette rencontre avec les nonnes. Mais en tout cas, d'ores et déjà dire que bien sûr, vous avez appris leur langue. Les Semeuses de joie, extrait.
Voilà un extrait du film Semeuse de joie qui est projeté ce soir dans la grande salle, dans le dôme à Albertville, en présence des nonnes. Alors Caroline, qu'est-ce qu'elles disent dans cet extrait?
Mais là, en fait, Poulsa Delmar raconte comment on s'est fait bousculer. Mais alors quand je dis bousculer, c'est peu de le dire. En fait, c'est à Bombay. On avait pris le train pour aller un peu dans le nord, voir des grottes bouddhistes. Et quand on est revenu, c'est en fait le train de banlieue. Bah, c'est l'heure du retour de tous les travailleurs. Hein. Et on était seuls dans le wagon. Et quand les portes se sont ouvertes, alors là, et c'était que des hommes qui se sont précipités, mais dans une joyeuse folie.
En les bousculant, hein,
dans une joyeuse folie, en bousculant du coup les nonnes. Et moi, évidemment, qui protège mes chères nonnes et tous ongles dehors. J'en ai frappé en disant c'est des femmes, ça va là. Et quand on est sorti, du coup, ils étaient toutes à la fois excitées, à la fois certaines avaient eu un peu plus peur, d'autres moins, parce qu'on sentait qu'il y avait pas de méchanceté dans les regards, mais quand même c'était vraiment une grosse bousculade. Et du coup elles ont raconté ça dans le vif du vécu.
Alors Caroline Rigel, on va essayer de raconter comment s'est passée cette rencontre. Un beau jour, vous décidez, parce que vous êtes une grande voyageuse, de partir 2 ans au fil du Gange à bicyclette.
Non, 2 ans au fil de l'eau, au à travers l'eau. Toute l'Asie. Le Gange, c'était une des dernières du... Voilà, un tronçon en fait. Et avant le Gange, justement, j'ai suivi pendant la mousson, ouais, sur une bicyclette indienne jusqu'au Bangladesh, bah, j'ai passé tout l'hiver aux Zanskars. Et c'était la partie la plus sédentaire de ce voyage, puisque j'étais effectivement posée dans une vallée qui était complètement fermée, une vallée himalayenne à 3500, 3700 mètres d'altitude. Donc j'ai eu le temps de m'immerger, de me poser un peu, d'approfondir les relations, et notamment celle avec elle. 7 mois, j'y suis restée à l'époque.
Et alors justement, c'est là que l'amitié se noue, avec des rires, beaucoup de rires entre elle et vous, hein.
Oui, ouais, ouais. Maintenant, la vie est un rire. Avec elle. Moi, j'aime ça. Ça rend juste les choses un peu différentes.
Alors, et donc, vous nouez une amitié exceptionnelle avec ces nonnes. Vous travaillez aussi. Vous faites pas que de rire, hein, avec elle.
Oui, non, bah j'ai enseigné. Alors bon, c'est les premiers mois, bien sûr, on n'est pas très efficace, hein, on apprend tout, j'ai tout appris, les travaux quotidiens, la langue, la lecture des prières, j'ai enseigné, mais ça me permettait finalement d'apprendre à elle le soir, à l'école gouvernementale du village en bas le jour. J'ai travaillé, ah oui, c'est vrai aussi, ouais, comme porteur sur le fleuve gelé avec des villageois de Tongri, justement, aux côtés de villageois de Tongri pendant un mois. Ouais.
Comme porteur, c'est-à-dire ?
Bah, porteur, enfin, quand il y a un groupe de Français qui veut faire le fleuve gelé, bah, il faut des porteurs, il faut des cuisiniers. Et donc, j'étais porteur et puis aussi, ensuite dans l'équipe cuisine.
Si on dit fleuve gelé, en Suisse aussi, on pense inévitablement à Olivier Folmy. Ouais. Il était à la base de ce désir de traverser le fleuve gelé.
Le fleuve gelé, pas tellement, parce que j'avais pas eu connaissance vraiment de tout ce qu'avait fait Olivier Folmy. Par contre, ce sont des images, des photographies d'Olivier Folmy. J'étais tombée sur un livre, Si loin des hommes, si près de Dieu. Et ce sont quand même ces images-là qui ont sans doute renforcé ce rêve le plus ancré que je pouvais avoir et qui a été au cœur de ce voyage, qui est de passer un hiver himalayen un peu loin de tout, cet hiver ancestral tibétain, on va dire, sur les hauts plateaux tibétains. Mais c'est en voyant les images d'Olivier Folmy que j'ai eu conscience que c'était quelque chose que je pouvais vivre aux Zanskars et que c'est quelque chose que je voulais vraiment vivre. Et donc oui, et ce soir justement, quand on m'avait demandé là pour la projection des Sommeuses de joie ici au Grand Bivouac, on m'a demandé qui est-ce que tu veux inviter, et j'ai dit Olivier Folmy, parce que je lui dois quand même d'avoir atterri aux Zanskars, d'avoir eu cette envie tellement forte de passer un hiver là-bas. Marianne Shaw, parce que si j'ai fait un film, c'est quand même complètement inspiré et ensuite guidé littéralement par Marianne. Et la famille Lapier, avec Véronique Lapier, puisque c'est à eux que j'ai acheté la caméra d'ailleurs.
Caroline, comment est venue cette envie d'embarquer toutes ces nonnes autour de l'Inde ?
Quand on parle la langue et qu'on se lie d'amitié... et qu'on a du temps pour à vivre ensemble, à travailler ensemble, à rire ensemble, on parle inévitablement de nos vies. Moi, ma vie, elle a quand même été forgée par beaucoup de voyages, que ce soit pour le travail ou pour ce que j'ai pu avoir la chance de faire seule, comme femme, dans un monde où c'est pas toujours facile pour les femmes de le faire. Donc on parle de nous, moi je parle du monde, un monde qu'elles ne connaissent pas. J'ai eu la chance d'étudier autant que je le voulais, elles non. Et peut-être tout simplement quand on vit ensemble, quand on s'aime, on rêve ensemble.
Et l'autre,
et c'est
envie
ce qui s'est passé.
Voir,
et un jour on a dit, ce serait bien de voyager ensemble en riant, mais vraiment sur le ton de la boutade. Moi c'est resté dans la tête, elles y ont pas cru évidemment, mais bien sûr qu'on, dans nos yeux, c'était « mais ouais, ce serait tellement bien ». Et puis, c'est resté et ça s'est construit. Et un jour, elles m'ont vraiment fait confiance. Et finalement, les villageois aussi, parce que c'était pas rien quand même de partir avec tout le monde.
C'était pas rien parce qu'à la fois il fallait faire des images, il fallait faire maman, il fallait faire chef
médecin,
de colo,
médecin. Bah, il fallait organiser, guide et puis tout organiser, toute la gestion du voyage, ouais, toute la logistique, tout. C'est sûr que c'était pas.
Elles étaient obéissantes.
Oui, non mais si je l'ai fait, c'est parce qu'on a une telle confiance les unes entre, enfin je veux dire les unes envers les autres, elles entre elles, moi vis-à-vis d'elles et elles vis-à-vis de moi, parce que sinon c'était pas possible de le faire. C'est sûr que c'était vraiment, moi je suis allée au bout de mes batteries, mais pas parce qu'elles m'ont épuisée, parce que l'Inde est fatigante, parce que faire un film c'était un défi complètement dingue. J'ai jamais fait de film, donc forcément c'était assez délirant, mais c'était important parce que c'était quelque chose qui allait rester pour elles. C'était le voyage de leur vie, c'était d'une incroyable densité pour elles. Ce film aujourd'hui a renforcé aussi une dynamique villageoise qui est très importante pour l'avenir de la nonnerie, qui est essentielle même.
C'est-à-dire renforcer une
dynamique. Il faut savoir que les monastères ont toujours été très riches. Les nonneries n'avaient rien aux Zanskar. Donc ces femmes bossaient dans leur maison et puis avaient peu de temps pour prier. Ils n'avaient rien. Et pour se nourrir, fallait finalement bosser. Aujourd'hui, c'est tout un village et les villageois n'étaient pas très, pas très investis parce que les nonnes c'est un peu en bas de l'échelle par rapport aux moines. Donc, et aujourd'hui, c'est tout un village qui a pris conscience que s'ils ne voulaient pas voir disparaître leur nonnerie, c'était à eux, avec les nonnes, avec toutes les aides qui est possible, mais de façon réfléchie, de façon intelligente, de construire l'avenir, d'avoir cette conscience, parce que le monde change, les choses changent, et c'est important de.
Alors, le tour de l'Inde, vous choisissez évidemment des lieux à la fois extrêmement touristiques. C'est mon portable qui sonne. Et en plus, c'est de la musique indienne, donc voilà, c'est pas trop gênant. Delhi, Rajasthan, le désert, Benares, les canaux du Kerala, des lieux bouddhistes, ouais. L'ashram de Gandhi, et puis la mer, parce qu'elles n'ont évidemment jamais vu la mer.
Non, il y en a qu'une qui l'avait vue. Et après, j'ai vraiment choisi tout ce voyage. Hein. Je suis vraiment responsable de. Elles m'ont dit, écoute, on te fait confiance. De toute façon, on veut juste pouvoir passer dans les monastères bouddhistes, etc., avoir un peu de temps. Donc, il fallait effectivement. C'était important parce que ça avait une valeur de pèlerinage d'aller dans tous les lieux bouddhistes. Elles ont été au Bhoutan, au Népal. Moi, je ne pouvais pas y aller parce qu'il y avait encore la règle des fameux 2 mois quand on quittait la frontière avant de revenir. Enfin. Mais après, ce que moi j'ai voulu leur offrir, c'est quand même vraiment l'école de vie au sens un peu large du terme, c'est-à-dire je ne peux pas leur apprendre grand-chose sur le bouddhisme, même si c'est ça vraiment l'essentiel pour elles. Mais par contre, je pouvais essayer de leur montrer ce que moi j'estime être notre plus grande richesse, c'est la diversité du monde. Par chance, l'Inde, qui est leur pays, offre quand même une diversité incroyable de culture, de géographie, d'histoire, et c'est comme ça que j'ai essayé de construire ce voyage pour qu'elle profite de la plus grande diversité.
Alors on les voit à la mer parce que ça va se terminer par les îles Andaman. Elles sont stupéfaites devant la mer.
Oui, les îles Andaman, c'était en fait pratiquement la moitié du voyage, hein, mais on est vraiment aux antipodes du Zanskar, avec pourtant une similitude, c'est-à-dire que c'est qu'un petit univers plutôt calme, à l'inverse du reste de l'Inde, hein, entouré, encerclé, isolé. Là-bas, aux Zanskar, c'est les montagnes, là, c'est l'eau. Et c'est vrai qu'à part la peur, puisqu'on a eu le début un peu de la mousson là-bas, donc il y a eu des pluies très fortes, elles avaient conscience qu'il y avait eu un tsunami, donc elles avaient cette peur un petit peu. Mais à part ça, effectivement, c'était la nature dans toute sa grande splendeur, la jungle, la mer. Puis surtout, on y trouvait les coquillages qu'elles appellent les rumbu, qui sont très précieux pour elles. Donc ça, c'était extraordinaire.
Alors, Caroline Rigel, elle vivait pratiquement en autarcie et ça a beaucoup changé, le fait de vous rencontrer. Comment est-ce que vous vous questionnez sur l'impact, en fait, de ce que vous avez enrichi dans leur vie, mais aussi peut-être déstabilisé?
Alors, en autarcie, quand même, pas quand je les ai rencontrés. Il y avait déjà la piste. Hein. Donc l'autarcie, c'est plus il y a 50, 60 ans et plus. Quoi. Là, effectivement, les Zanskar avaient quand même encore peu d'échanges et vivaient relativement effectivement en autarcie. Depuis l'ouverture de la piste, ça a quand même un petit peu changé. Par contre, c'est vrai, quand je les ai rencontrés il y a 10 ans, 11 ans, il y avait encore, l'hiver était complètement isolé, ça l'est encore, mais maintenant il y a le téléphone. Il n'y avait pas le téléphone à l'époque, il n'y avait pas de télé, il y avait très peu de voitures. J'ai quand même vu les choses changer en 10 ans. Et jusque-là, je ne crois pas avoir été le moteur des changements, ni même avec ces voyages, parce que dans le fond, le voyage en Inde, c'est quand même leur pays. D'autres Anskaris, d'autres personnes sont allées, notamment quand il y avait les enseignements du Dalai Lama. Donc, il y a maintenant la télé, donc on voit beaucoup de choses. À l'étranger, il y en a quand même maintenant qui commencent à aller aussi. Et je fais, c'est vrai que je fais attention à ne pas les chambouler dans leur chemin de vie, dans leur foi. C'est pas du tout le but de nos voyages. C'est pour ça que c'est très important pour moi qu'elles partent toutes, parce que l'essence même de leur façon de vivre,
que la communauté reste groupée.
Voilà, et elles ont un sens de l'harmonie extraordinaire, très aiguisé par une très forte honnêteté dans leurs valeurs. Et moi, si j'essaie de leur montrer le monde pour qu'elles aient plus confiance en elles, pour qu'elles puissent mieux l'appréhender, j'essaie vraiment de tout faire pour ne pas les chambouler dans leur foi et dans leur chemin de vie. Et c'est pour ça aussi que c'est important que tout le monde, tous les villageois, leurs familles soient intégrés à tout ça et comprennent ce qu'on fait, adhèrent à cela et soient même heureux que ça se passe.
Et quand elles sont rentrées, elles disent une très belle chose dans le film qui sera projeté ce soir: on va prier encore plus. C'est magnifique.
Mais c'est vrai que je les ai vues prier plus, ouais. Parce que sans doute par conscience, voilà, elles se rendent compte, ça les a, je pense, renforcées dans leur chemin de vie, et ça, j'en suis vraiment heureuse. Ouais.
Nomade des mers, il est projeté ce soir à Albertville. Nomade des mers.
Les semeuses de joie.
Les semeuses de joie. C'est les nomades des montagnes. Non, les semeuses de joie, donc projeté ce soir à Albertville. Et puis, j'espère qu'on pourra le voir un peu partout après.
En Suisse.
Maintenant,
en Suisse, Caroline.
Il y a une projection au Festival de Bulle.
Et ben on l'annoncera bientôt. Là.
Et si je parlais de Nomade des mers, c'est pour vous proposer de rester avec nous pour le film dont on va parler juste après cette chanson de Sting et Anushka Shankar.
Same tie that drew me closer, pushed me far away. I held the hand that lit the dark light, nothing I could say. I was on the outside, I was waiting for a sign. I set a course for a hidden island that lay beyond the deceiving silence. I was on the dark side, I was sailing towards the light. I made my way through a sea of silence, a pirate's life full of worthless diamonds. The sun meets the water and the sky breaks free.
searching far and wide, but you lost along the ride. When you sail to find me, you'll let the wind remind you. A shipwrecked sailor, like a sea by a maiden, sent out to sea. That's where I've been, a million, million miles away. Sea dreamer, chill my dying day.
Alors, c'est Sting, et nous sommes toujours en direct d'Albertville pour le Festival du Grand Bivouac, et nous découvrons, Martine, il faut que nous allions en France pour cela, que Caroline Rigel et Corentin de Châtel-Perron seront, enfin, présents, en tout cas à travers leur film, dans ce fameux festival Film Aventure de Bulle, qui va s'y dérouler du 11 au 15 novembre.
Et je vous conseille d'aller voir ces films, c'est des coups au cœur, hein, ça fait vraiment, c'est beaucoup d'émotions pour Nomades des Mers. Parce que maintenant, c'est juste, je peux dire, Nomade des mers. Voici un extrait qui vous donne un peu un avant-goût et le contexte.
Je suis parti pour 6 mois naviguer dans le golfe du Bengale, d'île déserte en île déserte, comme un nomade des mers, avec presque rien. J'ai même pas assez de réserves pour boire et manger pendant tout le voyage. Mais des idées, j'en ai plein. Mon objectif, vivre en autonomie avec des systèmes simples. En bricolant, vous savez, comme Kevin Costner dans Waterworld. Il pisse dans un mécanisme, ça lui fait de l'eau douce et il a un petit citronnier pour ne pas choper le scorbut. Ces petits systèmes, j'appelle ça des low-tech, à l'inverse de high-tech. Ça veut dire répondre aux besoins de base grâce aux moyens du bord. Je suis pas un Robinson Crusoe, je suis un MacGyver. Et mon bateau, c'est un couteau suisse géant. Ou plutôt un écosystème.
Alors Corentin de Châtel-Perron, racontez-nous un peu ce bateau, c'est un prototype.
Oui, c'est un bateau qui est un petit peu spécial parce qu'il est fait avec de la fibre de jute. Ça, c'est une fibre qui pousse au Bangladesh dans le delta du Gange et qui servait à faire nos sacs à patates avant. Les sacs de la poste, je ne sais pas si c'est pareil en Suisse.
En Suisse.
Vos patates aussi, vous les mettez dans des sacs de jute.
Oui. Okay.
Et ben, plus maintenant. Et par contre, c'était la première industrie du Bangladesh jusqu'à la fin des années 80. Et maintenant, cette plante, elle sert encore un peu à faire des cordes ou des sacs, mais de moins en moins. Donc, il y a un peu une crise dans ce secteur-là. Et mon idée, c'était d'utiliser ça dans la construction de bateaux à la place de la fibre de verre.
Alors, vous avez commencé par passer plusieurs mois au Bangladesh, même presque plusieurs années. Au Bangladesh, et de travailler comme ça avec beaucoup de gens pour réfléchir, inventer des nouveaux matériaux qui ont peu d'impact sur la nature.
Ouais, en fait, je suis parti dès 2009, ça veut dire pas longtemps après la fin de mes études d'ingénieur. Rejoindre Yves Marc, un navigateur, aventurier, je sais pas comment Caroline tu le décrirais.
Elle va dire ça quand même, assez remarquable.
Et en fait, il cherchait un ingénieur pour l'aider à développer un chantier naval au Bangladesh. Et donc moi, j'y suis allé à la base croyant y rester un an et puis repartir. Et en fait, j'ai commencé en parallèle de ce travail-là à faire des recherches sur la fibre de jute et puis petit à petit à créer ce matériau en mixant un savoir-faire bengali, qui sont les meilleurs du monde pour faire pousser la meilleure qualité de fibre de jute, et un savoir-faire français sur les matériaux composites, c'est-à-dire un mélange de fibres et de résine. Et c'est un matériau avec lequel on peut faire des bateaux, du mobilier, des trains, des voitures, des choses comme ça.
Alors Caroline Rigel, vous connaissez Corentin ?
Oui, l'année dernière, j'ai eu la chance de faire partie du jury des Écrans de l'Aventure à Dijon et on lui a remis le prix de la Toison d'Or, le Grand Prix. Mmh. Et puis après, on a des connaissances communes puisque Yves Marre est celui avec qui il a commencé son aventure et moi, j'ai terminé mon périple chez Humar.
Alors Corentin, il y a d'un côté la recherche de matériaux et puis il y a ce moment où vous devenez un aventurier parce que ce nomade des mers que vous devenez, il part sur un petit bateau de 6,50 m avec comme but du voyage une expérience sur l'autonomie. Donc il y a un virage comme ça qui se passe là-bas où vous osez vous balancer.
Ben oui, en fait, je suis parti sur ce petit bateau donc qui fait 6,50 m, qui est un peu ridicule dans la forme, je dirais, parce qu'il est voilà tout ventru et tout ça. Et je suis parti pour le tester pendant 6 mois. C'était avant d'industrialiser le matériau, c'est-à-dire que les recherches étaient terminées et il fallait tester le matériau pour montrer que c'était résistant et puis qu'il puisse se développer à plus grande échelle. Et donc je suis parti dans cet objectif-là et avec un double objectif de tester, c'est quelque chose qui me passionne, toutes ces innovations qui sont faites avec les moyens du bord que j'appelle des low-tech. Donc tester des low-tech, et donc j'ai imaginé tout un écosystème sur le bateau avec pour essayer de vivre en autonomie avec ces petits systèmes. Donc j'avais des poules dans un poulailler à l'arrière, une serre à l'avant pour faire pousser des patates. J'avais un dessalinisateur pour
faire de l'eau douce. Alors racontez-nous comment vous faisiez de l'eau douce.
Alors de l'eau douce par exemple, c'était une pompe donc manuelle que j'actionnais pendant environ 1h30 tous les jours. Et donc j'ai alterné main droite, main gauche pour pas me retrouver au bout de 6 mois avec un bras beaucoup plus gros que l'autre. Et en fait, ça me faisait 5 litres d'eau douce et je donnais 2,5 litres à ma serre, à mes plantes, à l'avant du bateau. Et 2,5 litres, on se les partageait avec les poules.
Et vous visiez les îles désertes justement pour vraiment aller jusqu'au bout de cette expérience sur l'autonomie.
J'aurais peut-être pas résisté si je m'étais arrêté devant des supermarchés pendant 6 mois. Donc les îles désertes, c'était plus sûr.
Et puis à un moment donné, vous vous dites, je suis plus un nomade des mers, je suis en train de devenir un clochard.
En fait, d'un fier nomade des mers, je suis plutôt un clochard des mers. 3 mois que je suis parti. C'est l'époque où j'aurais dû commencer à récolter les patates. Décidément, il n'y a pas grand-chose qui se passe comme prévu. Et pourtant, j'avais pas prévu grand-chose.
Elles n'ont pas poussé les patates sur le bateau ?
C'est pas très gentil d'avoir mis ce passage-là.
Ah ben c'est pas glorieux tout le temps, une aventure comme celle-là.
Non, mais ça illustre bien un truc, c'est que rien n'a marché comme je voulais. Et effectivement, les patates, c'est le premier échec, je pense.
Et les poules ?
Ou peut-être que le premier, c'est les poules. Enfin, il y en a eu plusieurs.
Elles pondaient pas autant que vous l'espériez.
Elles pondaient pas parce qu'elles étaient stressées et je suis pas un bon designer architecte de poulailler. Et parce qu'elles étaient suspendues au-dessus de l'eau et c'est pas bon pour que des poules pondent, elles ont besoin d'être rassurées des poules pour pondre. Et pour les patates, je suis un mauvais architecte de serre. parce qu'elles sont toutes mortes parce que soit je fermais la serre et ça faisait comme un four solaire, et soit j'ouvrais et l'air salin tuait les plantes. Et j'ai mis au moins 2 mois à comprendre qu'il fallait que j'installe un petit ventilateur d'ordinateur que j'ai installé, branché à mes panneaux solaires, et ça a fait extracteur d'air. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai pu faire pousser des plantes dans la serre, mais toutes mes patates étaient déjà mortes.
Alors dans le film Nomade des mers, on découvre justement tous ces systèmes que vous inventez, système D pour chaque chose de la vie quotidienne. Et vous vous filmez vous-même, puisque vous êtes tout seul, évidemment, pendant 6 mois sur l'eau. Et il y a tout le temps des plans originaux. Je me demandais comment vous avez fait. Donc, vous alliez accrocher la caméra, parfois à l'avant du bateau, parfois sur un arbre, parfois de côté. Comment vous filmiez-vous ?
Alors j'ai eu de la chance parce que j'avais des petites caméras. Sur lesquels il n'y avait pas d'écran, donc je voyais pas ce que je filmais. Et c'est qu'au retour que j'ai constaté qu'il y avait pas suffisamment de vidéos potables pour que ça marche. Mais en gros, j'avais apporté de quoi fixer la caméra à quelques endroits du bateau, sur le bateau, puis j'avais un espèce de pied que j'accrochais. Et ce qui m'a permis de faire des plans, où on me voyait de l'extérieur. Et j'avais même un cerf-volant. Ça a pas très bien marché, donc il y en a pas beaucoup de scènes avec le cerf-volant dans le film, mais je le montais, c'est un cerf-volant assez stable en forme de triangle, les grands cerf-volants. Je montais à une 30aine de mètres de haut, j'accrochais la caméra et je laissais plus de fil, et c'était censé faire des superbes vues de du bateau. J'ai passé des heures en navigation à essayer de filmer, puis en fait au retour je me suis aperçu que c'était pas du tout cadré comme il fallait. Enfin, la prochaine fois, je pars avec un écran.
Avec un drone.
Et puis, pendant un mois, il y a une équipe qui m'a rejoint sur une île. Et
alors justement, j'allais y venir, parce que la seconde partie du film, vous retrouvez des amis qui, comme vous, sont ingénieurs et recherchent dans la jungle, où vous créez un petit laboratoire éphémère. Qu'est-ce que vous recherchez ?
Ben en fait, chacun des membres de cette équipe était venu avec un savoir-faire sur une des low-tech. Donc par exemple, Thomas, lui, il est venu tester le recyclage de bouteilles plastiques. En fait, sur les plages, partout dans le monde, même dans les endroits les plus reculés, les plus déserts, on trouve des déchets plastiques comme ça.
Et, il monte la et bouteille lui... d'eau oui, pardon, sur la table.
et en fait, lui, il a essayé de trouver un moyen de les recycler, parce que pour que ce soit pas vu comme un déchet, mais comme une ressource. Et du coup, son idée, c'était de faire des lanières avec et de l'utiliser comme de la ficelle et après de chauffer au-dessus d'un feu pour que ça se rétracte et que ça fasse des liens solides. Il y a Arthur, lui, il était spécialisé en hydroponie. C'est la culture de plantes dans des zones où c'est aride ou alors il n'y a pas de bonne terre. C'est les plantes poussent dans l'eau en fait. Et tout le jeu, c'est de trouver le bon mix, le bon engrais à mettre dans l'eau. Donc on a fait des engrais à base de d'urine, de fientes de poule, de rouille, de cendre, de plein de trucs. Et puis on a fait des compétitions entre des plantes pour voir lesquelles poussaient le plus vite en fonction des mix qu'on leur donnait. Et voilà. Et donc chacun était venu avec des...
Ça vous a emballé ce film puisque vous avez choisi de dire je pense que c'est Caroline Rigel.
C'est extra et...
Il y a des choses à prendre pour le Zanskar
Mais il y a des choses à prendre pour tout le monde, hein, parce que le Zanskar vivait de low-tech, hein. C'est complètement finalement ce qu'on perd à être convaincu trop souvent que la technologie nous donnera une solution pour consommer moins, etc., etc. C'est un cercle vicieux qui est quand même un petit peu pervers. Parfois, il y a certes des solutions, des fois, mais enfin, je pense qu'il y a quand même pas mieux que de faire simple.
Là vous rêvez d'une étape supplémentaire, Corentin, parce que vous allez repartir avec d'autres chercheurs. Ils préparent l'avenir, en fait.
Justement, il y a des endroits dans le monde comme le Zanskar ou un peu partout dans le monde où les gens, sous la contrainte du climat, sous la contrainte des événements, sous le contexte en fait, sous les contraintes liées à leur environnement, innovent en fait avec les moyens du bord. Et en général, ces gens-là qui innovent dans ces situations-là, leur innovation reste à leur échelle alors qu'elle pourrait servir à des dizaines, voire quelquefois des centaines de millions de personnes. Et l'idée, du coup, c'est devenu de dire, en fait, il y a des innovations comme ça géniales. Il faut les diffuser au maximum de monde pour que le maximum de gens puissent s'en inspirer. Donc, faut que je vois avec Caroline s'il y a des innovations à diffuser depuis les Zanskar. Ouais.
Après, moi, le premier hiver que j'ai passé aux Zanskar m'a profondément marqué parce que c'était la première fois dans ma vie où j'ai eu l'impression de vivre complètement de la nature. Avec la nature et sans polluer la nature. J'ai pas dû produire un déchet pendant les 6 mois où j'ai passé le premier hiver. Parce que je n'ai rien jeté, parce qu'il n'y a rien qui venait de magasin, parce que tout ce qu'on mangeait, tout était local, parce qu'on n'avait pas d'emballage, il n'y avait rien de tout ça. Et ça a été un moment, une révélation, hein, parce que je pense que dans notre monde moderne, on n'imagine même pas que c'est possible en fait. Alors après, c'est des équilibres à trouver, des adaptations à trouver, parce que c'est sûr que c'est pas la même chose. Je le vois bien dans l'énergie. Je bosse sur les barrages. C'est pas la même chose d'essayer de donner de l'électricité à un petit village que d'en donner à une ville de je ne sais combien de millions d'habitants. Donc c'est sûr que les problématiques sont pas toujours les mêmes. Mais je pense qu'on a effectivement encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à comprendre de.
Et partout sur la Terre, c'est ce qu'on apprend aussi avec vos découvertes, Corentin, c'est qu'il y a des inventeurs qui cherchent et vous avez envie de créer un lien entre tous ces inventeurs de low-tech, c'est le contraire de high-tech. À travers le monde, ce sera le prochain voyage.
Oui, là, on est en train de préparer une expédition. Cette fois, le bateau va être plus grand pour pouvoir accueillir justement des spécialistes de chaque domaine. Parce que je vous l'ai dit, je suis un mauvais architecte de poulailler, un mauvais architecte de serre, un mauvais éleveur, cultivateur de patates, etc.
Mais un super fédérateur.
Et je compte sur le fait que j'ai été tellement nul pendant cette expédition qu'il y a plein de gens qui veulent m'aider. Et donc, on a créé alors à la fois un site internet, c'est une plateforme collaborative de recherche et de diffusion de ces technologies. C'est un espèce de... comme un centre de recherche, mais sur Internet. Et on a envie de devenir la NASA du low-tech. Et à côté, on organise cette expédition pour que ça se fasse connaître. On va partir en février prochain. On pourra être 5 sur le bateau. Et donc, à chaque pays, on va s'arrêter dans plus de 30 pays. On va accueillir des inventeurs des pays qui ont inventé des solutions qui méritent d'être diffusées.
Merci beaucoup, Corentin. Donc votre merci film vous. S'appelle Nomades des mers et on redit qu'il bon, il passe ici à Albertville, mais aussi à Bulle bientôt.
Aussi à Bulle, et ce qu'on va dire encore, c'est que le 29 octobre dans Des Tours, et ça c'est vraiment une coïncidence et un très bel hasard, c'est que nous allons entendre votre Yves Mars, chef du chantier d'Aratari au Bangladesh, en reportage à Chittagong. C'est joli, non, comme coïncidence.
L'Inde d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crie quand siffle le nickel au ciel? C'est drôle non plus de densité. C'est drôle non plus de densité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses d'azur aux arbres pour passer l'ennui, tant de têtes de tes nuées usures, chimères, ces fantômes peuplent ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Si tu penses, boïc, boïc, et tes mouvements lançons de majesté. Boïc, 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 est-ce la faute de tes passagers indigestes? Tu penses à ton frère, enfin comme un vieil éléphant. À gauche à l'aise, enfin, enfin comme un vieil éléphant.
C'était Feu Chatterton et Des Tours est aujourd'hui à Albertville pour le festival Grand Bivouac, festival de voyageurs où l'on peut voir beaucoup de films. Voici un extrait d'un film signé Anna et Mathieu Zaintinjoglu. Alors, c'est difficile à prononcer. C'est peut-être pas
mais
juste.
C'était presque bien. Hein, mais c'était, pas mal, Mathieu.
C'était pas mal. Mais ça fait... se prononce comme ça s'écrit. En
voilà.
Fait.
En fait, il va être prononcé juste dans l'extrait qu'on va entendre de Marchand d'Olive.
Zaintinjoglu, c'est mon nom à présent. Les plus malins d'entre vous diront que c'est un nom d'origine turque. Mathieu vous dira que c'est un nom arménien turquifié. Cette turquification du nom permet à Garabed, le grand-père paternel de Mathieu, d'échapper au génocide arménien de 1915 que le gouvernement turc s'entête toujours à ne pas reconnaître. Voilà maintenant 6 mois que Mathieu et moi sommes mariés. Et c'est moi qui ai persuadé Mathieu de commencer notre voyage de noces en Turquie.
Alors voilà, c'est l'extrait du film dont nous allons parler maintenant, Le fils du marchand d'olives. On le redit, on l'a compris dans cet extrait. Mathieu, vous êtes le petit-fils d'un rescapé du génocide perpétué par l'État turc en 2015. Et c'est une sorte de road movie avec Anna, votre compagne, votre épouse polonaise, qui vous embarque sur les traces de vos ancêtres. Elle a dû vous convaincre et insister beaucoup pour partir et faire ce voyage-là, Mathieu.
Alors c'était son idée, en fait, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, après notre mariage, pour faire un voyage de noces qui partirait très loin.
Ouais.
Et moi, depuis quelques temps, j'avais dans l'idée de faire un film sur le génocide arménien, pour parler un petit peu de mes origines que je connaissais peu et pour parler surtout du génocide arménien qui était peu connu et que je connaissais peu également. J'avais vu quelques films à l'époque sur le génocide arménien, très peu, très dur à aborder, très pas très grand public finalement, ou toujours très terrifiant à voir, puis reléguant le génocide arménien à quelque chose, à un fait passé, sans aucune actualité. Et du coup, pour lier l'utile à l'agréable, quand comme Anna a insisté pour qu'on parte en Turquie pour me faire découvrir mes origines arméniennes, c'était la dernière idée qui me serait traversée, qui m'aurait traversé la tête. Ouais. Pour moi, c'était le dernier pays à visiter.
Pourquoi?
Parce que ayant des origines arméniennes, même si j'ai pas été élevé parmi des Arméniens, mon père me disait toujours que on avait des origines arméniennes et qu'on avait un nom arménien turquifié à cause du génocide. Du coup, chaque fois que je devais parler, expliquer d'où venait mon nom, ce qui était très fréquent, j'expliquais aux gens, ben voilà, c'est un nom arménien turquifié, ah bon, mais pourquoi? Ben parce qu'il y a eu un génocide. Toute ma vie, j'ai dû expliquer ça.
Et c'était quoi, à ce moment-là, par exemple? C'était déjà une espèce de petite douleur qui disait pas son nom?
Mon nom, c'était une malédiction. D'ailleurs, le film, je parle du génocide et de mon nom comme une malédiction. J'ai une petite allégorie sous forme d'un conte illustré, animé.
Très joli, d'ailleurs.
Qui raconte un petit peu ça. À la fois la malédiction de mon nom, à la fois la malédiction de la psychogénéalogie du génocide et que portent les descendants de rescapés du génocide.
Et alors Anna, votre épouse polonaise, c'est la fée. C'est la fée qui va essayer de réparer quelque chose,
de rompre la malédiction en me réconciliant avec mes origines par le biais de ce voyage de noces qui me permettrait de retrouver de me remettre en contact avec mes origines, mes ancêtres, la terre de mes origines, mes racines arméniennes. Et au-delà de ce voyage, en amont de ce voyage, déjà, c'était toute la préparation de ce voyage qui m'a amené à me questionner sur l'histoire des Arméniens, d'où venait ce peuple, etc. Des choses que je ne connaissais pas, que ma femme m'a fait découvrir parce qu'elle était très curieuse. Quand on s'est marié, évidemment, elle adorait mon nom. Et puis elle me disait, ah, mais ça vient d'où? Alors j'ai dû lui expliquer, comme j'avais fait tant de fois, ben, c'est arménien turquifié. Ah bon? Parce qu'il y a eu un génocide, et patati, et patata. Et là, ah, mais c'est génial, j'adore ton nom. Et du coup, c'est elle qui s'est penchée sur, ben, c'est quoi les Arméniens? Elle a commencé à lire des livres d'histoire sur l'historique des Arméniens, et c'est là où je me suis rendu compte que les Arméniens, c'était un peuple avec une histoire énorme, très ancienne, avec une vraie culture, et que ma femme m'a fait découvrir. Et en préparant ce voyage, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait, au-delà du génocide, il y avait une chape négationniste qui était écrite sur le site de l'ambassade turque à Internet, qui maintenant a disparu, mais toute une partie, les allégations arméniennes sur un prétendu génocide, sur les sites officiels, partout sur Internet. Et je me disais, c'est bizarre quand même. Moi, on m'a toujours dit qu'il y avait un génocide. J'étais pas au courant qu'il y avait un négationnisme du génocide.
Comme ça,
voilà.
Ouais. Et alors, c'est ce qui va se passer au cours de ce voyage. C'est-à-dire que vous savez, en partant, que la Turquie nie le génocide. Et vous allez rencontrer plein de gens et vous allez constater qu'en effet, tout le monde, depuis le jeune homme dans la rue jusqu'au grand-papa en passant par le musée, tout le monde confirme cette thèse de la négation du génocide. Qu'est-ce qui se passe chez vous à ce moment-là?
C'est un choc. En fait, on est parti sur les terres turques pour que j'en apprenne un peu plus sur mon grand-père que je n'ai jamais connu, Garabed Zetinjuglu, qui en fait s'appelait Garabed Zetinjuglu, qui avant d'avoir son nom turquifié qui lui a permis de sauver la vie s'appelait Garabed Zetinjian.
Marchand d'olives.
Le fils du marchand d'olives en arménien, le fils du marchand d'olives en turc après. Et donc en allant sur les traces administratives que j'ai trouvées, où j'ai vu que son nom avait été transformé à Keskin, j'ai trouvé qu'il n'y avait rien, aucune trace. Et non seulement il n'y avait pas de trace, mais effectivement partout les Turcs disaient qu'il n'y avait pas eu de génocide, que les Arméniens étaient des menteurs, que c'était des allégations infondées, qu'il n'y avait d'ailleurs jamais eu d'Arméniens sur ces terres, la preuve, il n'y en avait plus.
Et tout le monde, hein, vous ne croisez personne qui vous dit si ça a eu lieu.
Non, non. Et on me reproche d'ailleurs ça, de ne pas avoir montré, filmé des Turcs qui reconnaissent le génocide, parce qu'il paraît qu'il y en a, il y en a peut-être plus maintenant. Mais là où j'ai été, sur les terres où vivaient les Arméniens, donc dans les terres reculées de la Turquie actuelle, après de la frontière ouais. avec l'actuelle Arménie, il y a
notamment dans l'ancienne capitale. Hein, vous allez dans l'ancienne capitale,
mais dans toutes ces villes, il y a une vraie ignorance de l'histoire de ces terres, de qui a vécu sur ces terres. Donc tous les gens qui vivent là-bas ne savent pas qu'il y avait des Arméniens. Ou s'ils le savent, ils ne l'ont pas dit, ils l'ont caché. Donc depuis 100 ans, il y a eu un tabou qui fait que les gens sont surpris que des gens prétendent qu'il y ait des Arméniens qui aient vécu là, alors que les Arméniens vivaient là depuis 5000 ans quand même. Et maintenant, toutes les traces des vies des Arméniens ont été effacées, ou on a tenté d'effacer les traces en turquifiant des sites arméniens. Des églises arméniennes catholiques transformées en mosquées, c'est terrifiant. Des sites comme Ani où Ani, non, pas la capitale. Ani, c'était la capitale sous l'Empire arménien en 1400. Puis c'est un peu le vestige de la culture arménienne d'il y a très longtemps. Mais maintenant, c'est un site classé au patrimoine de l'UNESCO, je crois. Et donc les Turcs refont des travaux, mais c'est la ville aux mille églises, Ani. Mais ils rénovent, quand on y était, ils rénovaient les mosquées.
Et
il y avait écrit nulle part que c'était un site arménien. C'était l'État turc, le drapeau turc partout. Et partout, tous les sites où vivaient les Arméniens, qui sont accaparés maintenant parce que ça rapporte du tourisme par les Turcs, on a effacé les traces des Arméniens.
Alors, vous n'avez pas répondu à ma question. Vous êtes confronté dans votre chair à ce négationnisme. Vous n'apparaissez pas à l'image, puisque vous filmez. C'est Anna, votre porte-parole. Qu'est-ce qui se passe chez vous à ce moment-là? On part pour enlever la malédiction et on est confronté à quelque chose de terrible encore.
Alors, tout ce voyage était terrifiant, puisque j'avais vraiment l'impression d'être comme dans un livre de Lewis Carroll, Alice de l'autre côté du miroir, où en allant sur la... En Turquie, en rentrant dans les terres profondes de la Turquie, plus on s'avançait, plus c'était la logique inverse de la logique dans laquelle j'avais été éduqué. Il y avait eu un génocide dans mon éducation, et là, il n'y avait pas de génocide. Les Arméniens étaient des terroristes. Les Arméniens, c'est eux qui ont fait un génocide. C'est même ce qui était écrit dans certains musées turcs.
On vous a envoyé un DVD, parce qu'on a cherché dans un musée, on ne pouvait pas vous renseigner, et on vous a envoyé un DVD où ça confirme cette thèse-là.
Et donc tout ça, et donc plus j'avançais, plus j'étais... en plus j'avais caché le fait que j'étais arménien, j'avais profité pour le coup, comme mon grand-père a profité de son nom turquifié pour échapper au génocide, moi j'avais profité de mon nom turquifié pour arriver discrètement en Turquie et me faire passer pour un fils d'immigré turc qui fait découvrir son pays d'origine à sa femme, ce qui m'a permis de rentrer en contact facilement avec les Turcs, de discuter, de créer de la sympathie et une confiance qui a permis de discuter facilement des sujets sur lesquels les Turcs ne discutent pas facilement, notamment le problème arménien.
Alors, Le Fils du Marchand d'Olives est diffusé ici à Albertville et vous avez déjà tourné un autre film en Inde qui s'appelle Burn in Love. Et il y a aussi votre femme, c'est-à-dire vous voyagez en couple et puis votre femme est quand même le fil rouge de vos films. Et cette fois, c'est un couple qui veut repenser sa façon de s'aimer, qui va questionner sur l'amour un tas de gens en Inde. Elle en a pas marre, votre femme, d'être comme ça
Parce qu'il y a même... Objectifiée.
Voilà, il y a même un moment, elle dit « Mais arrête de filmer, ça suffit !»
Oui, c'est vrai que... c'est une série de trois films, c'est une trilogie. Donc « Burn in Love », c'est le deuxième volet de cette série de trois films sur la violence, l'amour et la mort. Donc l'amour, la violence et la mort sont présentes dans les trois films à chaque fois, dans chaque film, en accent plus sur quelque chose. « Burn in Love » axe plus sur la question de l'amour. L'amour dans sa dimension de couple jusqu'à sa dimension métaphysique et transcendantale, celle véhiculée par les gourous et les guides spirituels, et questionner la réalité du sentiment amoureux.
Et du coup, le troisième, ce sera quoi?
Sur la mort. Hein. Sur la mort, oui.
Et il vous manque des sous?
Pour le deuxième, pour finir le deuxième.
Finir le montage.
En fait, le film est tourné, on est parti 6 mois en Inde. Et on a, le film est en partie monté. Il manque un peu d'argent pour finaliser le montage, faire les parties d'animation et toutes les finalisations de post-production. Donc, j'ai lancé une campagne de financement participatif sur le site KissKissBankBank, ce qu'on appelle du crowdfunding. Mm-hmm. Et si les gens sont intéressés, ils peuvent aller voir le projet, le film de présentation du film. Et comment m'aider. Le film s'appelle Burn in Love. Voilà.
En tout cas, merci beaucoup Mathieu d'être passé nous voir. Vous sortez d'une salle remplie à craquer où vous avez projeté le film avec plein de questions. On va vous rendre au public du Festival du Grand Bivouac et nous allons écouter une chanson avant de conclure cette émission en direct d'Albertville. Merci Mathieu.
Je vous remercie.
Aux innocents, les mains pleines, je t'emmène lancer des médailles dans l'eau bleue des fontaines et cueillir à nouveau ces visions qu'on s'offrait autrefois comme des couronnes, ces visions qu'on s'échangeait pour se dire, pour se rappeler, je suis veilleur, tu es musée. Je veux sentir les feuilles de mangue craquer sous nos dents avec la chlorophylle qui s'échappe et te faire écouter le son de carillon que fait le claquement des drisses de pavillon contre les mâts avec en fond le grand fracas de la mer qui rapporte et au-dessus la procession de cargo des nuages bas et blancs. Je voudrais te faire rencontrer les femmes cypriennes et les ball queens qu'elles nous habillent de robes et de diadèmes au croisement d'Amsterdam et de la 80e pendant que moi je te mettrai au poignet des bracelets de tissu qui deviendront des bracelets de fleurs, puis des rubans, puis des violons. Je porte le blason de mon clan, je l'ai désormais gravé sur la face visible de mon cœur, mais ça ne fait pas mal, rassure-toi au contraire. J'ai fait broder nos souvenirs étincelants sur deux manteaux de nuit que m'ont offert les frères tisserands drapés pieds canus. J'ai à la main mes ossières, je suis prêt. Les mains pleines, je t'emmène plonger dans la Seine et nager dans les courants forts de Beauchamp, nager dans les rivières, remonter les ruisseaux, puis prendre un bain brûlant où je laverai ta peau au lait d'ânesse avant de sécher ton corps moi-même comme avant quand on était adolescent. Je veux faire l'amour dans les champs, dans les clairières, dans les taxis. Je veux faire l'amour partout, même sur les toits de Paris. Je veux résider au creux de ton cou et dans tes draps parfumés au lilas, tandis qu'une madrée enveloppée d'un châle rouge baigne nos fronts en silence avec des croix de baume au camphre. Je te montrerai comment décrocher les boules blanches des symphorines pour les éclater sous nos pieds et entre nos doigts avant d'aller regarder la lumière de lampadaires qui rougeoie et qui vacille sur les berges du fleuve endormi. Dont les risées de vent emplissent la surface. Je veux offrir cette cigarette à ma mère, cette cigarette d'après la guerre et son odeur vanillée. Je t'emmène voir le granit rose de ces îles qu'on peut pas déplacer, mais c'est pour nous protéger. Je t'emmène tout rejouer, peut-être tout perdre, mais peut-être aussi tout rafler, tout braquer, tout gagner. Après la nuit.
Voilà, on peut se dire, Martine, que ça commence au fond vraiment aujourd'hui, le festival. Hein, les gens arrivent, affluent, à la fois les jeunes, les vieux, les écoles. On va vous donner le site du festival pour avoir le détail du programme, parce qu'il y a encore demain et après-demain, www.grandbivouac.com. De toute façon, toutes les indications sont sur notre site. Et vous, Martine, vous avez promené votre micro pour savoir ce que les gens attendaient de ce grand moment.
Ouais, c'est un des principaux festivals qui permet de rencontrer tous les voyageurs et puis de préparer son voyage dans tous les pays du monde. C'est tout simple, c'est facile, c'est bien.
Il y a beaucoup de stands de voyagistes.
Oui, autrement, il y a plein de conférences organisées, des films, des vidéos. Et oui, c'est facile de rencontrer les gens qui ont voyagé.
Ça permet aussi de rêver, parce que c'est génial ici.
Enfin, moi, je serais frustrée si je regardais sans l'idée d'y aller, quoi.
C'est la 14e édition, je crois. Et à chaque fois, ça dépayse et puis ça permet de vivre ces rencontres. Voilà, on ressent vraiment le monde comme il est, quoi. Moi, c'est pour ça que je viens.
Je trouve que ça conscientise aussi sur les choses, au-delà de l'aspect voyage, exotique. Ça nous fait réfléchir aussi sur notre quotidien. Ça nous fait dire aussi que bah, ailleurs commence ici et que la rencontre, c'est aussi peut-être tous les jours. Parce qu'on se dit qu'il y a aussi d'autres personnes peut-être plus près qu'on ne rencontre pas. Ça nous incite à être plus ouverts tous les jours, je pense. Voilà.
Merci, bon festival.
Merci.
Et ce mot « ailleurs commence ici », il est écrit partout dans Albertville. C'est un peu le slogan.
On l'a raconté hier, c'est effectivement le slogan « ailleurs commence ici ». On va le garder pour nous, Martine, un de ces jours. On va remercier, puisque nous allons partir et ne plus être en direct demain, le directeur de ce festival du Grand Bivouac, Bertrand Perret. C'est sa première édition et nous avons été extrêmement bien accueillis par son équipe.
Merci à Laurent Deschanet qui assurait la technique, à Mathieu Lutolf, à Lausanne, Stéphanie Jovanovic pour les musiques, Stéphanie Gucci pour la préparation, Madeleine Caboche, Martine Gallon, puis on revient lundi.
Et alors lundi, Martine, vous revenez à Paris avec...
avec Anouk, qu'on sera au boulevard Saint-Germain, oui.
Donc lundi, Martine Gallon, de 15h à 16h. Bon week-end à vous tous et à vous toutes.
Il est 16h sur